Roland Gory, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Roland Gory à Aix-en-Provence et nous allons parler de votre dernier livre, un livre coécrit avec Marie-Josée Del Volgo, intitulé « Exilé de l'intime, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique », un ouvrage publié chez De Noël. Roland Gory, vous êtes professeur de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille et également psychanalyste. Et Marie-Josée Del Volgo, avec laquelle vous avez déjà coécrit en 2005 « La santé totalitaire ». Marie-Josée Del Volgo, elle est donc directrice de recherche en psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille. C'est donc une collègue également pour vous, et praticien hospitalier à l'assistance publique de Marseille. Et ce livre, Roland Gory, c'est le livre d'un psychanalyste et d'un médecin qui nourrissent leurs réflexions aux travaux de Max Weber, Michel Foucault ou encore Théodore Adorno pour débusquer les relations discrètes mais aux puissants effets entre savoir et pouvoir. Alors le terrain choisi est un cas de figure particulièrement significatif de cet alliage, le champ de ce que Didier Fassin et Dominique Mémy ont appelé dans un ouvrage récent le gouvernement des corps et que Foucault avait désigné, lui, comme le biopouvoir. Alors plus précisément et plus près de nous, il s'agit dans ce livre de l'alliance entre médecine et économie libérale, depuis la nouvelle gestion des hôpitaux jusqu'à la diffusion massive du Viagra, en passant par les simulacres de l'information et du consentement des patients, ou encore la notion fourre-tout de trouble du comportement. Et ça vous concerne davantage, Roland Gory, évidemment, puisque c'est le sujet de la psychiatrie qui concerne la recherche et les traitements psychiatriques. Alors c'est l'ensemble concerté de ces phénomènes qui a pour conséquence de nous exiler de l'intime, pour reprendre le titre de votre livre, c'est-à-dire de notre propre intimité. Vous employez aussi, Roland Gory, l'expression de bannissement de l'intériorité.
Oui.
On commence par le plus général.
Oui, alors on commence par le plus général. Si vous voulez, on a l'impression que l'individu est de plus en plus évalué et de plus en plus conçu comme un ensemble de comportements dont d'ailleurs on essaie de mesurer de manière très approximative la valeur, la rentabilité, la manière également dont il se gouverne, et on s'éloigne de plus en plus de son intimité, c'est-à-dire aussi du sens de l'histoire de sa vie. C'est-à-dire on a donc une espèce d'aplatissement que l'on voit d'ailleurs aussi avec les concepts comme la transparence, où finalement chaque camarade devient un surveillant, pour reprendre un terme que Foucault applique au panoptique de Bentham, avec la notion de visibilité isolante. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de repli, l'être n'a plus tellement d'importance, l'histoire d'un sujet n'a pas tellement d'importance, le contexte, les liens,
oui,
c'est secondaire par rapport à, on peut dire, un effet de véridiction que constitue sa manière de se gouverner lui-même dans son rapport aux autres. C'est un peu conçu comme une espèce de micro-entreprise libérale.
Oui, oui. Il y a d'ailleurs, puisque vous employez quelques termes qui sont dans l'air du temps, un chapitre assez savoureux sur la novlangue de la psychiatrie aujourd'hui. Alors vous partez, Roland Gory, d'un cas de figure qui est particulièrement crucial, c'est la question de la mort, évidemment, du traitement de la mort, ce que vous appelez l'œuvre de sépulture, qui évidemment révèle au mieux le relief anthropologique d'une culture. On en a beaucoup parlé récemment avec le cas de cette malade qui s'est donné la mort, et c'est un thème, on en reparle, on va encore légiférer, semble-t-il, là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors écoutez, je crois surtout que...
Parce que vous dénoncez quand même l'accumulation, vous citez un article récent du Quotidien du Médecin, « Jamais l'Assemblée nationale n'a produit autant de lois pour encadrer, contrôler, vérifier, mettre aux normes les comportements des individus. » Ça, c'est typiquement français. Mais on verra que...
Oui, enfin, c'est typiquement lié à notre civilisation libérale et même néolibérale, c'est-à-dire une espèce d'administration scientifique et technique du vivant, avec tous les risques que ça comporte. Mais sur la question de la mort, je crois que la manière dont on meurt dans une société, elle est révélatrice de la manière dont on vit. Finalement, oui. C'est ce voilà. Donc, on voit bien à l'heure actuelle, pourrait-on dire, si vous voulez, la tentative de donner une administration scientifique et rationnelle de la mort. Ce dont se plaignent d'ailleurs tous les médecins et les soignants des soins palliatifs. Ils sont pas là pour administrer la mort. Ils sont là pour accompagner. Ouais. Absolument. Mais si vous voulez, vous évoquiez tout à l'heure la question également de l'évaluation économique de la tarification à l'activité des services hospitaliers. Ouais. On voit bien le risque, si vous voulez, de concevoir finalement non plus l'acte de soin, mais c'est d'ailleurs, ça fait partie de la nouvelle langue, il n'y a pas qu'en psychiatrie, en médecine et en psychologie aussi, mais plutôt comme un service, une prestation de service rendu. Mmh. D'ailleurs, on voit de plus en plus se substituer, si vous voulez, à la terminologie de patient, le terme de client, à la terminologie de soigner, la terminologie de rendre un service ou d'une activité. Donc, il y a tout un modèle. Alors, vous preniez la mort, effectivement, la manière dont une société, finalement, accompagne ses mourants, comme traite, finalement, ses plus vulnérables, pas uniquement les mourants, mais aussi les malades mentaux, les enfants, les malades, la manière même dont elle le fait révèle la substance éthique de ses valeurs, de ses idéaux. Donc, à l'heure actuelle, nous, on voit bien comment, dans notre société, on a de plus en plus une espèce de jonction, si vous voulez, entre le technico-scientifique. Et on a vu quand même au XXe siècle, avec les totalitarismes politiques, ce que pouvait être une administration technique et scientifique du vivant, c'est-à-dire quelque chose de monstrueux. Et puis, l'économique, c'est-à-dire le rentable. Mmh. On a là une jonction entre deux pratiques qui me paraissent des pratiques du déshumain pour aller vite.
Oui,
Et en contrepoint, bien sûr, avec cette conception d'un accompagnement des patients, d'un accompagnement des mourants, d'un souci de soigner, d'accompagner les malades ou les vieillards ou les fous, pour employer un terme, les malades mentaux, pour employer un terme un peu provoquant.
Alors, vous savez, Roland Gori, que la préoccupation que vous exprimez dans ce livre, vous n'êtes pas la seule, le seul, vous n'êtes pas tous les deux, avec Marie-Josée Del Volgo, les seuls à la voir, puisque, je ne sais pas si vous avez vu le dernier numéro de Courrier International, qui est consacré justement à cette question, interdit d'interdire, les États veulent tout régenter. Alors, c'est au nom justement du politiquement correct ou du médicalement correct, le journaliste fait volontairement évidemment la confusion entre les deux termes, que se font des empiétements sur la liberté des individus. Alors je citais en fait cette publication parce que Courrier International donc est fait par des articles, constitué d'articles venant du monde entier, et en Europe c'est un mouvement qui semble tout à fait concerté finalement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement, je parlais du cas français, mais c'est une évolution. Ça la rend d'autant plus inquiétante et on ne parle pas des États-Unis, hein, l'hygiénisme régnant aux États-Unis, c'est une évolution qui concerne tous les pays développés.
Oui, alors on est peut-être obligé aussi de voyager un peu dans le temps et pas seulement, si vous voulez, dans l'espace, là. C'est-à-dire qu'il faut voir...
Comme vous le faites dans le livre, d'ailleurs, aussi.
Il faut voir que, pour aller très vite, bien sûr, de manière très grossière, mais qu'à partir du XVIIIe siècle, l'effondrement, pourrait-on dire, des grands messages, l'effondrement, l'effacement des grands récits transcendantaux qui font d'une loi, une manière de gouverner, une manière de vivre, cet effondrement laisse un vide, et ce vide, eh bien, le pouvoir, le social, se tourne vers les sciences, et en particulier les sciences vivantes, c'est-à-dire la médecine, pour essayer, si vous voulez, de le combler. C'est-à-dire pour trouver un peu dans la science et dans la médecine, on va dire, un guide normatif des conduites. C'est-à-dire comment se comporter pour bien se porter, et finalement l'art de gouverner va être de plus en plus l'art, finalement, d'apprendre aux individus à s'autocontrôler, à s'autogouverner, à finalement tirer profit de leur niche écologique. Je crois que c'est un point important. Il y a cette espèce de
leur
médicalisation.
Capital humain.
Oui, alors, ouais. Il y a cette espèce de médicalisation de l'existence qu'on voit tout à fait, si vous voulez, apparaître au 18e et au 19e, ouais. Avec les institutions, les discours qui vont fonder justement cette prise en charge. Alors, sanitaire, je crois que c'est un point important. Ouais. Souvent, on confond la pratique médicale et les dispositifs sanitaires, et notamment des dispositifs sanitaires éclairés par une pensée de l'épidémiologie, par une pensée de la santé publique.
L'organisation sanitaire des villes en particulier, hein, ça dès la fin du XVIIIe siècle et toute la médecine du XIXe siècle, vous le rappelez, Roland Gory, dans ce livre, est inspirée par ces initiatives.
Tout à fait. Alors, simplement, on voit apparaître aussi au XIXe, bien sûr, une extension de la notion de santé à la fin du 19e, des historiens comme Georges Vigarello par exemple l'ont parfaitement montré au niveau de l'histoire des pratiques de santé, et que la santé ça va plus être simplement la santé physique ou l'hygiène physique, la santé ça va être aussi la santé morale, ça va être la santé psychique, et progressivement ça va être le bien-être, le mieux-être, et tout le 20e va recomposer comme ça le champ de la santé jusqu'à ce que on donne, en 1946, l'Organisation mondiale de la santé va donner une définition où la santé, c'est pas l'absence de maladie, l'absence d'infirmité, c'est l'épanouissement complet d'un bien-être physique, psychique et social total. C'est un message totalement messianique, si vous voulez. Et on voit bien comment, effectivement...
Ça part peut-être d'un bon sentiment, notamment à l'intention des populations qui sont privées de ce bien-être social, notamment.
Mais je crois qu'il ne faut pas diaboliser, bien évidemment.
Et mental.
Il ne faut pas du tout diaboliser...
Mais ça va toujours dans ce sens, quoi.
Ça va toujours dans ce sens. Et pour vous donner peut-être un exemple très, très concret, et en même temps, on l'évoque dans le livre, qui est un petit peu, si vous voulez, entre guillemets, amusant, enfin, humoristique. Par exemple, une année avant Télémirat d'un WC électronique, qui s'appelle Washlet, qui tout en assurant un confort révolutionnaire de relaxation, d'hygiène, d'écologie, non seulement permet un séchage thermique des fesses, avec un joystick qui les nettoie de toute souillure, un moyen d'apporter un peu de réconfort, dit la notice, imitant avec des haut-parleurs le bruit d'une chasse d'eau, mais encore, grâce à Toto, le numéro 1 japonais de ces WC électroniques, ce dispositif sanitaire permet d'analyser les selles, l'urine, de mesurer la pression artérielle et d'évaluer la graisse corporelle. Donc, vous voyez, il manque plus que l'IRM, quoi, hein, que l'imagerie médicale. Donc,
imaginer un feu artificiel pour l'occasion aussi.
Le fait d'aller à la selle devient un fait social total. C'est-à-dire, c'est un peu cela qui est assez préoccupant, puisque finalement, on peut dire, pour aller vite, qu'au-delà des questions de commodité, qu'au-delà des questions de prévention, ce dont il s'agit aussi de plus en plus, c'est finalement d'une surveillance des populations à risque. Et on voit bien d'ailleurs évoluer, on en parle dans l'ouvrage, bien sûr, de cette évolution des rationalités de la médecine, l'évolution de ces figures de rationalité, de ces objets, de ces savoirs et de ces pratiques, c'est-à-dire toujours davantage passer d'une prise en charge de l'individu malade à des fins curatives, vers, si vous voulez, la surveillance des risques possibles pour une population. C'est-à-dire que l'individu, ça devient un segment de population.
Voilà.
C'est cela qui est très problématique. Et bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, on voit bien ensuite comment opère la jonction avec, finalement, l'ensemble de ces données biologiques conçues comme une espèce de capital humain dont chaque individu devrait se faire l'entrepreneur.
Oui, l'entrepreneur de soi-même, ou l'acteur de sa propre santé, que selon une expression que vous empruntez à Bernard Kouchner, qu'il avait utilisé lors du vote de sa loi, la loi Kouchner. Et alors, juste pour finir sur le chapitre historique, vous évoquez aussi, Roland Gory, dans votre livre, évidemment, le moment des biopolitiques totalitaires, mais historique, hein, parce que vous avez également justement consacré un livre avec Marie-Josée Del Volgo à la médicalisation de l'existence. Vous avez intitulé ça « La santé totalitaire » et c'est sur la médicalisation de l'existence. Juste un détail, j'ai appris dans votre livre que le soin au cercueil, le soin aux morts, notamment le cercueil ou la tombe, c'est relativement récent en fait. Ça date dans nos...
C'est Foucault qui a insisté sur cette...
Fin du XVIIIe siècle.
Qui a insisté sur cette individualisation, pourrait-on dire, du cadavre. Mais par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, je crois qu'effectivement, on va pas vivre d'une espèce de nostalgie des sociétés agraires ou des sociétés pré-industrielles. C'est comme ça, on a évolué. Simplement, on essaie de mettre en évidence la nécessité de contre-pouvoir, de force, si vous voulez, dialectique, qui finalement ne réduise pas l'humain à un simple capital économique. Parce que là, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais si on a le temps, mais on a de véritables délire quasiment mystique sur sur le capital humain et la manière dont un individu peut faire fructifier son patrimoine. Enfin, au point que à ce moment-là, il y a plus de sujet, il y a plus d'intimité, il y a plus d'histoire, il y a plus de lien social. Il y a uniquement une espèce de micro-entreprise qui est de temps en temps vérifiée par des contrôleurs de gestion de l'intime. Finalement, ce que risquent de devenir les médecins, les psychologues, les travailleurs sociaux. C'est ce quadrillage, vous voyez, des populations qui est extrêmement problématique, puisque c'est au nom du risque. Et ça, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit au 18e avec notre notion, on va dire, occidentale de la liberté.
C'est, je crois, Winnicott que vous citez au début du livre, justement à propos de cette notion de risque, où il dit que la santé elle-même comporte un risque, il faut savoir l'accepter, au sens où quelqu'un qui est en bonne santé physique et mentale peut être dans le cas d'un événement douloureux plus exposé finalement que quelqu'un qui a déjà des problèmes de santé physique ou mentale.
Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que être affecté par la perte d'un être cher,
c'est l'exemple du deuil, oui.
Voilà. Être affecté, si vous voulez, par la souffrance d'autrui, c'est pas un signe de maladie. C'est plutôt, entre guillemets, un signe de bonne santé. De bonne santé individuelle et de bonne santé culturelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une civilisation où on donnerait des antidépresseurs pour éviter que quelqu'un soit déprimé parce qu'il a perdu quelqu'un?
Alors là, je sens qu'on va passer justement au chapitre sur la mélancolie et ce que vous appelez cette notion molle de la dépression.
Ah oui, là, il y a quelque chose d'absolument, si vous voulez, stupéfiant dans notre civilisation, dans notre culture, qu'on appelle, après Foucault, néolibéral, pour aller très vite, au sens de Foucault en tout cas, c'est la manière dont on a transformé la mélancolie en trouble du comportement, et en particulier en trouble du comportement dépressif. Ce terme de dépression, il est très vaseux. Pour prendre un exemple simple, entre 1979 et 1997, n'est-ce pas, le diagnostic de dépression est multiplié par 7. Ça ne veut pas dire qu'on a 7 fois plus de déprimés. Ça veut dire que c'est une notion très molle, très liquide, très flexible. Et d'ailleurs, on a vu récemment, à propos des antidépresseurs et du Prozac, toutes les discussions concernant l'efficacité de ces antidépresseurs, puisque la notion est tellement molle qu'on met aussi bien des dépressions légères que des dépressions graves. Et finalement, on n'arrive même plus sur un plan, je dirais, de vérification des thérapeutiques, à savoir si on a affaire à un bon médicament, tout simplement parce qu'on a un mauvais diagnostic. Alors, juste sur ce mot de dépression, il y a chez les psychanalystes, c'est peut-être pour ça que d'ailleurs la psychanalyse n'est pas trop aimée à notre époque, elle est pas trop aimée pour des raisons idéologiques, comme elle a été boostée à un moment donné pour des raisons idéologiques. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est pas en fonction de sa validité thérapeutique ou de sa validité épistémologique qu'elle est aimée ou haïe, mais c'est en fonction, pourrait-on dire, de sa complaisance à entrer dans des idéologies qui permettent des gouvernements de conduite d'individus et de populations. Pour aller très vite, il y a un très beau texte de Winnicott de 63 qui s'appelle La valeur de la dépression, où il montre justement que la dépression, ça peut permettre aussi la constitution, pourrait-on dire, d'une réalité intérieure. C'est quand vous parliez tout à l'heure de l'œuvre de Sépulture, j'emprunte aussi à Pierre Fédida qui parlait de du rêve comme
le œuvre. Psychanalyste, voilà. Pierre Fédida qui parle aussi de la dépression comme le sol natal du psychisme,
et tout à fait,
dont la mélancolie serait la maladie d'espèce.
Tout à fait. Une maladie, n'oubliez pas l'origine du mot justement assédie, c'est-à-dire priver du soin de la sépulture. Alors, dans notre civilisation, il y a plusieurs façons de priver du soin de la sépulture. C'est pas seulement la sépulture matérielle. La sépulture, ça peut être aussi la capacité d'inscrire en soi ses pertes. Or, nous sommes dans une civilisation qui récuse conjure la perte. Vous voyez ? Et je crois que c'est là où la manière dont effectivement on accompagne les mourants, la place que l'on donne à la mort dans la vie, parce que le problème de la mort, c'est un problème de vivant, comme dit Norbert Elias, qui est un sociologue, n'est-ce pas ? Qu'on cite abondamment dans le livre.
Oui.
Eh bien, il va de soi que notre civilisation, par la quantification du temps, par la segmentation du temps, par les idéaux de civilisation qu'elle promeut, eh bien, notre civilisation, si vous voulez, tend à ne pas laisser aux individus, pourrait-on dire, la possibilité d'instancier dans leur psychisme, justement, leur perte. Ça, c'est un problème majeur. Je crois que c'est un problème, si vous voulez, essentiel. Et encore une fois, comme le dit Winnicott, c'est parfois les plus malades qui sont le moins affectés par les pertes.
Alors, ça va loin, Roland Gori, puisque vous évoquez notamment le cas du Viagra. Justement, dans le gouvernement des corps, il y avait une contribution très intéressante sur l'impuissance, qui n'est pas forcément un symptôme, à passer sous silence ou à rejeter, même si peut-être évidemment inconfortable, mais passager. Je ne parle pas évidemment d'une impuissance pathologique. Et totale, mais celle qui concerne finalement tous les hommes à un moment ou à un autre. Et vous citez le cas du Viagra en relevant quand même au passage que cette culture qui est la nôtre, qui traque les addictifs, elle en fabrique aussi. Dites-vous, une addiction à la performance, à l'action et au résultat. C'est la seule addiction qui soit finalement acceptée.
Oh non, parce qu'on peut avoir une addiction aux médias, par exemple.
Oui, il y a ça aussi, elle est encouragée même.
On peut avoir une addiction à gagner plus, en travaillant plus, on peut avoir différentes formes, si vous voulez, addictives.
Là, je parlais d'addiction à des produits.
Absolument. Mais vous l'avez compris, Jacques Munier, là, je plaisantais. Simplement, c'est pour dire que, finalement, les formes mêmes de nos souffrances psychiques et sociales témoignent aussi des idéaux et des valeurs d'une civilisation. Donc, on traque effectivement les addictifs et en même temps, on en fabrique. Si vous voulez, la notion de dépression comme la notion d'addiction, ce sont des diagnostics, des notions qui sont inséparables, pourrait-on dire, de la manière dont on forme, par exemple, les experts qui posent ces diagnostics, ou de la manière dont on vit à un moment donné dans une société. Bon, je ne sais pas si je suis très clair, mais je veux dire par là, si vous voulez, que les diagnostics psychiatriques, c'est pas la même chose que les diagnostics médicaux, les diagnostics biologiques. Les diagnostics psychiatriques, c'est quand même quelque part issu d'une espèce de négociation, de transaction entre la souffrance d'un individu ou la souffrance de plusieurs individus et puis les savoirs et les manières de penser l'humain et de penser les normes à un moment donné dans la culture. Donc si on préfère à l'heure actuelle parler de dépression plutôt que de mélancolie, ou si on préfère parler d'addiction plutôt que de parler par exemple de toxicomanie, ça n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui met en relief les valeurs de notre culture, et plus particulièrement notre civilisation.
Bien sûr. Alors, on va parler de la casse de la psychiatrie, puisque c'est votre... vous êtes psychiatre et psychanalyste.
Je suis même psychiatre.
Vous êtes professeur de psychopathologie, et psychanalyste.
Oui.
Et évidemment, tout ce qu'on a évoqué sur la dépression, ça concerne en premier lieu les psychiatres et les psychanalystes.
Oui, alors, peut-être juste pour terminer très rapidement sur la question de l'impuissance. Qu'il y ait des médicaments quels qu'ils soient, les psychotropes ou d'autres, pour finalement soulager des souffrances, c'est une chose merveilleuse, et on l'a vu en psychiatrie avec les neuroleptiques, on a pu le voir avec des anxiolytiques ou avec des antidépresseurs, c'est pas le problème. Le problème, c'est le problème de la consommation et de la manière dont le médicament, comme la marchandise, pourrait-on dire, à notre époque, viennent prendre la place, si vous voulez, de l'être, viennent prendre la place du sens ou de l'histoire. Alors, ce qui est terrible concernant, par exemple, l'utilisation, si vous voulez, du Viagra ou du Cialis ou d'autres, c'est finalement quasiment, ils fonctionnent, ils peuvent fonctionner comme talisman, comme fétiche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent les prendre avec le sentiment, d'ailleurs abusif sur un plan médical, que ça va augmenter leur performance, ou de peur d'être en panne. C'est-à-dire que nous sommes dans une civilisation où la chute d'une performance, où l'atteinte d'une performance, où la crainte d'être en faillite, n'est-ce pas ? Vous voyez là la nouvelle langue, c'est-à-dire une langue très économique, oui. Très une langue de manager. La crainte d'être en panne ou en faillite produit un comportement qui est un comportement, pourrait-on dire, contraphobique, c'est-à-dire d'utilisation de ces médicaments, au point que certaines personnes peuvent ensuite se sentir, d'abord, peuvent très bien avoir un rapport sexuel sans pour autant sentir quelque chose. Donc à ce moment-là, l'impuissance, c'est plus l'impuissance d'organe, mais c'est une impuissance ontologique, une impuissance vitale, une impuissance de sensation. Et le deuxième point, c'est que le partenaire peut avoir l'impression que, si vous voulez, ça n'est pas pour lui ou pour elle, en l'occurrence, que se fait l'acte d'amour, mais comme performance, pourrait-on dire, d'un homme replié sur lui-même, enfin, d'un performant, pour aller vite.
Oui.
D'une espèce de technologie, pourrait-on dire, sexuelle, et non pas un désir d'amour. Alors, effectivement, vous parliez de la case de la psychiatrie, on voit bien comment...
C'est votre expression, Roland
oui,
Gorrie.
Oui, tout à fait, mais je l'assume pleinement, si vous voulez. La psychiatrie, on peut dire, pour aller vite, qu'elle a commencé à être cassée dans les années 70, avec l'émergence en 1980 du fameux DSM-3, donc ce catalogue de diagnostic des troubles, qui, soi-disant, ne reposait plus sur des savoirs explicatifs ou sur des théories, se voulait athéorique et recenser, n'est-ce pas, si vous voulez, des troubles du comportement en essayant d'avoir donc une position sans a priori théorique. Bon. Il y avait aussi la volonté d'être objectif, la volonté de redevenir médical, c'est la remédicalisation de la psychiatrie, et qui se fait, d'ailleurs, il faut quand même le noter au passage, qui se fait de manière paradoxale, puisque le DSM-3, ensuite on aura le DSM-4 en 90.
Oui, ça change beaucoup aussi, oui.
Oui, et ça change beaucoup et ça multiplie chaque fois les troubles.
C'est ça.
C'est-à-dire, ça montre bien, si vous voulez, que l'armoire est mal foutue, puisque chaque fois, il faut changer les tiroirs. On en arrive quand même entre 1952, le DSM-1 et 1990, le DSM-4, à multiplier par 4 le nombre de troubles du comportement, c'est-à-dire que on perd justement la référence de la clinique psychiatrique, son souci de description,
oui,
d'études minutieuses.
Et lié aux individus, aux patients.
Lié aux individus, à leur histoire, à leur contexte, à leur environnement. Et on transforme cela avec le terme de 10. C'est ce que j'appelle l'empire des 10. C'est-à-dire dysfonctionnant de toutes sortes, dysrectile, dysphorique, dyslexique, dysorthographique, etc. Mmh. C'est-à-dire que on transforme, si vous voulez, les grandes figures de la psychiatrie, les grandes structures de la psychiatrie qui ont été étudiées à peu près jusqu'en 1977, c'est la mort d'Henriet pour aller vite, grand psychiatre comme vous savez, en menu monnaie des anomalies de comportement.
Mmh.
Donc, on voit bien là comment, effectivement, la psychiatrie perd, si vous voulez, de la valeur éthique qui était la sienne dans une culture.
Merci Roland Gorrie. Nous parlions avec vous d'un ouvrage coécrit avec Marie-Josée Del Volgo, Exilé de l'intime, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique. Un ouvrage publié chez De Noël.